Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes venus nombreux et nombreuses ce soir pour écouter donc Laurent Joly. Laurent Joly, bien que vous soyez très connu tout de même, il me revient tout de même l'immense tâche de vous présenter brièvement. Donc Laurent Joly, vous êtes directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche historique. Vos travaux portent sur le régime de Vichy, les politiques antisémites, les déportations, la collaboration. Vous êtes l'auteur de très nombreuses publications, aussi bien individuelles que collectives. Parmi les plus récentes, on peut citer « La rave du Veldiv », Paris, juillet 1942, récompensé entre autres en 2023 par le prix de la Fondation Pierre Laffut, ou encore « La falsification de l'histoire », Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs. Aujourd'hui, vous nous faites l'honneur de venir donc présenter votre dernier livre qui s'intitule « Le savoir des victimes, comment on a écrit l'histoire de Vichy et du génocide des Juifs de 1945 à nos jours », publié donc aux éditions Grasset. Il ne s'agit pas d'un essai, mais d'un véritable livre d'histoire construit sur des sources plurielles et des archives inédites sur lesquelles nous reviendrons au cours de cet échange. Dans cet ouvrage, dont il faut tout de même vraiment souligner la qualité de l'écriture, vous retracez au final les différentes étapes qui ont forgé l'écriture du régime de Vichy et de son rôle donc dans les politiques anti-juives. Donc merci beaucoup Laurent Joly d'être ici ce soir chez Mola à la station Ozone. Ma première question donc sera en réalité peut-être double. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de cet ouvrage ? Est-elle née de l'écriture de la rafle du Veldiv ? Cet ouvrage aussi donc fourmille de très très nombreux noms d'individus. Les acteurs sont nombreux, leur parcours et leur personnalité sont pluriels. Pourquoi donc avoir choisi le titre « Le savoir des victimes » ?
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content de revenir ici, parce que je connais quand même maintenant bien Bordeaux, je viens de temps en temps. Et j'avais notamment eu, pour la rave du Veldiv, j'avais également eu le prix François Mauriac, donc une grande personnalité bordelaise, il y a 2 ans et demi. J'ai fait effectivement plusieurs travaux sur Vichy, les Juifs, et ça fait même très longtemps que je travaille sur le sujet, plus de 25 ans. Je constatais qu'il manquait un livre d'histoire de l'histoire. Voilà. Parce que des livres sur Vichy, comment ça s'est passé, les rafles, les déportations, la collaboration, il y en a plein, je suis bien placé pour le savoir, il y en a énormément. En revanche, il n'y avait pas de livre qui explique comment ce savoir s'est construit. On a même des idées reçues. On imagine que, et c'est aussi venu l'idée, il y a eu 2 origines, si vous voulez. D'abord, c'est que, vous le savez, depuis quelques années, le programme a changé. Et donc, en terminale, H, S, G, G, je ne dis toujours...
La spécialité.
Voilà, la spécialité, c'est, s'il y a des profs dans la salle, c'est histoire, mémoire, justice. Et ce qui m'a frappé, quand je réfléchissais aux origines de comment on a écrit l'histoire de Vichy et les Juifs, du procès Pétain jusqu'au procès Papon, qui sont les 2 bornes de mon livre, donc 45-1998, c'est que ça a tout le temps été entremêlé, histoire, mémoire, justice. Donc quand j'intervenais, on me demandait d'intervenir dans des classes, devant des terminales, à cause de cette spécialité. Donc je faisais je préparais des cours, des conférences, et je me rendais compte qu'il n'y avait pas de livre qui expliquait comment ça s'était construit. Et en plus, il y a eu, comme vous vous en rappelez, le phénomène, entre guillemets, Zemmour. Vous avez Éric Zemmour qui, d'un coup, a surgi et a dit... voilà, le moindre mal, c'est une thèse valide. Et je me rendais compte qu'en fait, si on connaissait mieux l'histoire de l'histoire, on se rendrait compte que ce n'était qu'un recyclage de vieilles idées. Donc voilà, j'avais un peu ces idées comme ça en tête. Et ça fait très longtemps que je pensais à ce livre. Enfin, très longtemps, c'est à la fin des années 2010 que j'ai commencé à travailler sur ce livre. L'introduction et la conclusion, et le premier chapitre ont été écrits en 2019-2020. Et puis je voyais que c'était plus complexe, qu'il y avait des choses que je voulais continuer à creuser, et je me suis dit il faut pas juste faire de l'historiographie parce que sinon ça va ennuyer tout le monde, j'aurais pas de lecteur. Et donc je me suis dit en fait il faut aussi aller voir les archives des historiens. Et puis une fois que j'ai commencé à avoir des archives d'historiens, il faut aussi voir des archives de journalistes importants. Vous avez ici à Bordeaux Henri Amouroux a joué un rôle fondamental dans l'écriture de cette histoire et dans sa vulgarisation. Donc je suis allé voir les archives d'Henri Amouroux. Je suis allé voir les archives de Simone Veil. J'ai vu comme ça, au bout du compte, une quarantaine de fonds privés. Entre-temps, j'ai écrit La Rave du Veldiv, donc j'ai mis de côté. Et je suis revenu, et 2023, j'ai passé l'année dans les archives. Les archives d'historiens, donc de politique, de militants de la mémoire, évidemment, Serge Klarsfeld. Et puis, en 2024, j'ai rédigé. Voilà. Et alors, du coup, j'ai oublié votre question. J'ai oublié l'une de vos questions.
La dernière question, c'était tout simplement pourquoi avoir choisi ce titre.
Alors, ce titre, alors voilà, ce titre, je l'ai eu dès 2019-2020. J'avais le concept, en fait. Vous voyez, c'est comme quand... je savais quel livre je voulais faire parce que ce qui m'a frappé dans ces 50 années d'écriture de l'histoire, c'est que la vérité sur Vichy et les Juifs, elle a été connue très rapidement. Très rapidement, parce que vous avez des gens qui sont des militants de la mémoire, donc ce n'est pas des historiens professionnels, mais ils vont devenir des historiens. Ce sont les chercheurs du CDJC. CDJC, ça vous dit peut-être rien, c'est le Centre de documentation juive contemporaine. Et ce qui est très frappant, c'est que ces chercheurs, donc c'est des noms que peut-être vous connaissez, Léon Poliakov, je pense que c'est un nom assez connu, Joseph Billig, Georges Vellers, ce sont des gens qui ont un lien avec le génocide des Juifs, soit ce sont des rescapés, comme Georges Vellers, qui a été déporté en 1944, qui est revenu, qui est un scientifique, un chimiste, et qui va vouloir écrire l'histoire... de ce qu'il a vécu à travers des archives. Parce que le CDJC va, le Centre de documentation juive contemporaine, c'est ça vraiment la singularité, c'est une vraie singularité à l'échelle mondiale, hein. C'est qu'en France, on a eu accès très tôt à des archives. Le CDJC a eu accès aux archives de la Gestapo. Ils ont cherché, ils sont allés taper à la porte de différentes administrations, et rue des Saussées, on leur a dit, il y a des archives. Et prenez-les, ça ne nous intéresse pas vraiment. C'est des policiers qui enquêtaient sur des crimes de collaboration, qui disent, voilà, des archives des affaires juives de la Gestapo. Extraordinaire. L'année d'après, ils vont taper à la porte du service de restitution des biens spoliés. Le service de restitution des biens spoliés, c'est lui qui s'occupe de réparer ce que les crimes de Vichy en matière de spoliation des Juifs. Et le service de restitution des biens spoliés, il a récupéré toutes les archives du Commissariat général aux questions juives. Et là, on leur dit, y a plein d'archives qui ne servent pas à la restitution. Allez-y, c'est ouvert. Et donc, ils vont avoir accès à des milliers de documents. C'est l'équivalent d'à peu près 1000 cartons d'archives. Donc, vous voyez que c'est extraordinaire. Ils ont ces archives et ils commencent à écrire l'histoire de la persécution à partir d'archives. Et d'ailleurs, ils tiennent à ce que ce soit à partir d'archives, à ce que ce ne soit pas à partir de témoignages. Mais vous voyez, ils sont très positivistes. Et en fait, on se rend compte que leur manière d'écrire l'histoire, c'est en gros ce qui va s'imposer. Donc, au début, pas grand monde ne les lit. Je montre quand même, et ça, c'était quand même totalement ignoré, qu'ils ont quand même des liens avec le monde de la recherche, avec le CNRS. Joseph Billig obtient un poste au CNRS en 1950. Donc, il peut continuer à mener ses recherches. Il publie une somme sur le Commissariat général aux questions juives. On a déjà toute la thèse de Paxton qui est là, la fin, la conclusion. Il juge la collaboration en disant, voilà, la collaboration. Enfin, c'est toutes les thèses de Paxton qui sont déjà là. Donc voilà, il y a vraiment, on est 20 ans avant le tournant Paxton, et il y a déjà les thèses principales qui sont là. Et c'est ça le savoir des victimes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont su, parce qu'ils sont des victimes, parce qu'ils ont accès aux archives, ils savent où est la vérité, et ils la formulent. Et ce savoir-là, il va y avoir... j'avais plein d'autres questions sans doute à me poser, je ne vais pas retracer tout, mais en gros, vous avez... Un consensus va s'établir, on va y revenir, parce que ça, c'est très intéressant. Un consensus va s'établir. Et à un moment donné, vous avez un homme, Serge Klarsfeld, vous voyez en couverture du livre, qui va vouloir aller au-delà et qui va vouloir, en plus de la vérité historique, obtenir une vérité judiciaire. En fait, que la vérité de l'histoire se traduise par un grand procès. Donc, il vise un procès, c'est celui de Bousquet, il ne va pas l'obtenir. Parce que, comme vous le savez, Bousquet va se faire assassiner. Je montre dans mon livre, à partir d'archives inédites, parce que quand je vous ai dit que j'ai vu des archives d'historiens, de journalistes, j'ai vu aussi des archives de politiques. J'ai eu accès aux archives des conseillers de François Mitterrand. Et donc on voit très bien que Mitterrand a bloqué l'affaire Bousquet, très clairement, qu'il a bloqué aussi l'affaire Papon. Tout ça est bloqué, bloqué, bloqué. Puis finalement, ça se débloque, en grande partie grâce au discours de Jacques Chirac. Et on a le procès Papon, qui est un peu le couronnement du savoir des victimes. C'est-à-dire qu'en gros... Il faut qu'il y ait une validation judiciaire et Klarsfeld l'obtient. C'est ce que j'appelle le moment Klarsfeld. ce procès Papon qui a été très controversé à Bordeaux, on le sait bien, et qui finit par un arrêt qui, en vérité, et je l'analyse comme ça, est un arrêt, donc 10 ans de prison pour Maurice Papon, je n'ai pas besoin de vous présenter Maurice Papon, mais qui est en fait la traduction de la vérité de l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, Klarsfeld impose un verdict qui est celui qui correspond à la réalité historique des responsabilités de Papon. Donc c'est, on voit vraiment ce couronnement du savoir des victimes qui mélange histoire, mémoire, justice.
Absolument.
Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, mais c'est vraiment les grandes lignes du...
Je pense que vous avez fait un parfait résumé des grandes thèses, en fait, de ces grandes scansions, en fait, que vous montrez extrêmement bien en 4 parties. Et vous débutez tout d'abord, en fait, par des avant-propos sur le procès du maréchal Pétain. Pourquoi c'est un tournant, ce procès? Comment il va façonner l'histoire, la mémoire autour du régime de Vichy?
Ah bah, très bonne question. Le procès Pétain, c'est effectivement pour moi, c'est, pour utiliser un mot de jargon que j'utilise pas dans mon livre, c'est matriciel. J'aime pas ce mot-là, mais voilà, c'est, il engage tout ce qui va suivre. C'est-à-dire que le procès Pétain, c'est le procès de Vichy. C'est vraiment, voilà, c'est le procès qui était attendu par l'opinion publique. Il commence en juillet 1945. C'est un procès qui a été très mal organisé parce que il y a une accusation un peu absurde. Pétain aurait fait un complot contre la République, donc voilà, c'est donc c'est un procès qui a commencé sur de mauvaises bases et au cours duquel les grands crimes de Vichy ont été assez peu abordés. Donc il y a là quelque chose d'un peu frustrant et en fait c'est véritablement le point de départ de mon livre. En fait c'est la découverte d'une lettre. Je travaillais, j'avais déjà l'idée de faire ce livre Et je me disais, bon, je vais commencer par ces chercheurs du CDJC, donc Bilic, Poliakov, Zellers et Georges Vellers, donc rescapé d'Auschwitz. Il y a son fonds privé. Georges Vellers est devenu ensuite un grand historien. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, parce que Vellers a été très actif dans les années 80 pour lutter contre Forisson. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, mais il a fait un livre très important en 1985 sur les chambres à gaz qui ont existé, un livre publié chez Gallimard, un livre important. Donc j'accède aux archives de Georges Vellers. Et dans ces archives, qu'est-ce que je découvre? Ça, c'est vraiment, ça fait partie de ces moments quand on est historien, on découvre une archive incroyable. On est fébrile, quoi. C'est une lettre qu'il écrit au président du tribunal qui juge Pétain. On est en juillet 45. Vellers est revenu des camps 2 mois avant. Et Vellers demande à témoigner au procès Pétain. Et il fait une lettre de 2 pages pour dire voilà quels sont les. Pourquoi Pétain doit être jugé et doit être condamné pour son rôle dans la déportation des Juifs. Et Vellers, et c'est là le savoir des victimes, c'est qu'il est à la fois un témoin, mais il est un témoin qui a un savoir particulier. Le savoir de celui qui a vécu la persécution. Parce que Vellers, il a été 2 ans à Drancy. Et à Drancy, il a été à la tête du service de l'hygiène. Comme c'était un homme très, très honorable, très respectable, on lui a demandé, comme il était chimiste, scientifique, donc il a vu ce qui s'est passé à Drancy. Il a vu l'arrivée des enfants. Ce crime dans le crime de Vichy, ces enfants qui auraient pu être sauvés, qui étaient français, pour une grande partie d'entre eux. Donc, il témoigne de tout ça, de tout ce qu'il a vu. Et il dit, voilà, Pétain est responsable de ça. Et ce qui est fascinant, c'est que cette lettre, ben, finalement, il ne l'envoie pas. Il demande conseil autour de lui, et il ne le fait pas. Et ça, c'est un point de départ extraordinaire, parce qu'on voit que, finalement, il n'y a pas de victime juive qui témoigne au procès Pétain. Il renonce, on lui dit non, on sera pas entendu, il vaut mieux agir discrètement. Et donc, il y a quand même des interventions. Et contrairement à ce qu'on dit souvent, il n'y a pas une absence de la persécution des Juifs pendant le procès Pétain. On parle des Juifs un petit peu, on en parle. Le pasteur Bogner, Pierre Laval, à un moment donné, qui arrive, qui en parle. Il y a l'accusation pose des questions. Donc, c'est quand même un sujet dont on parle, ce qui fait que l'avocat vedette, enfin, il n'est pas encore l'avocat vedette, mais il va devenir l'avocat vedette, le jeune avocat Maître Izorni. Ils sont 3 avocats à défendre Pétain, et le plus brillant, le plus fort, c'est Izorni. Izorni, dans sa plaidoirie, va mettre l'accent sur la question de la déportation des Juifs. Et il va faire tout un narratif en disant, voilà, le maréchal Pétain, à Vichy, comme à Verdun, il a voulu protéger les Français. Et l'un des exemples les plus convaincants, c'est les Juifs. On a essayé, c'est vrai que ça a été dur, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Juifs étrangers qui ont été déportés, mais nous avons protégé, et c'est grâce au maréchal Pétain, les Juifs français. Voilà. Donc il essaye comme ça de mettre en avant, et il est très convaincant, parce qu'il est très brillant, il avance des chiffres, qui effectivement, quand on les compare avec ce qui s'est passé ailleurs, voilà, en Pologne, pareil. Et il emporte plutôt la conviction des jurés, ce qui fait que le maréchal Pétain est condamné à une voix près. Et que quand on commente cette plaidoirie, les gens disent il a été très fort cet avocat, très convaincant, et vous avez même Raymond Aron, donc je parle bien de Raymond Aron, hein, le grand Raymond Aron, qui dans Les Temps modernes, la revue de Jean-Paul Sartre, fait un article en disant, voilà, sur la question de des Juifs, en gros, ils ont nié à raison. Et effectivement, grâce à Vichy, grâce à la zone libre, on a les Juifs ont été davantage préservés. Donc on voit qu'il y a une sorte d'idée reçue. Et toute la clé du livre, c'est de comprendre comment cette idée reçue, qui va vraiment s'imposer, qui est jusqu'à la fin des années 60, c'est, je vois des gens qui, peut-être, vous avez été à l'école dans les années 50-60, si vous rappelez de vos manuels scolaires, à partir de 1959, dans les manuels de terminale, on parle de Vichy, ben, c'est marqué, c'est ce qu'on voit. La rafle du Veldiv, c'est les Allemands. Vous lisez Historia, vous lisez les livres de Decaux Castello, c'est l'idée dominante. Voilà, avec des gens qui ont des relais. Ce qui est frappant, c'est que Isorni, le gendre de Laval, René de Chambrun, dont j'ai eu accès aux archives qui sont absolument incroyables, René de Chambrun, et c'est, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, il était ami avec le Tout Paris, il est ami avec le patron de Plomb, il est ami avec le rédacteur en chef d'Historia, il est l'ami d'André Castello, de Decaux. Donc, il influence, et il y a vraiment, jusqu'encore dans les années 80, dans Historia, c'est la thèse de Vichy qui domine. Voilà. Et donc toute la clé du livre, c'est de comprendre comment cette idée dominante a fini par s'effondrer, et comment ces gens, ce savoir des victimes, ces gens qui publiaient des livres que peu de gens lisaient, qui, eux, avaient accès à la vérité, qui, eux, la diffusaient dans leurs travaux que peu grand monde lisait, comment cette vérité est devenue la vérité, entre guillemets, officielle, puisque c'est même le président de la République, en 1995, en a fait la vérité de la nation, en tout entière. Voilà.
Absolument. Et
voilà pourquoi j'ai commencé par le procès Pétain, parce que, vraiment, tout l'enjeu de ce qui va suivre est là.
Absolument. Et en fait, on fait beaucoup de place habituellement à la figure du maréchal Pétain. Et en fait, je trouve que le personnage peut-être le plus intéressant, c'est Maître Isorni, qui va continuer à défendre son ancien client des années et des années durant. La question suivante, c'est justement, vous avez très bien dit, en fait, dans ce procès, les victimes ont eu quand même l'intention de parler initialement, mais au final, on renonçait. Pourquoi ce renoncement? Est-ce que c'est lié au contexte de la libération, ou est-ce que c'est simplement des motifs personnels de préférer la discrétion?
Eh bien, c'est les deux, et qui sont liés, puisqu'effectivement, le contexte de 1945, il n'est pas extraordinaire pour les Juifs. Il y a un antisémitisme qui reste fort. Il faut quand même voir que la France sort de 4 années de propagande. Et c'est vrai qu'il y a eu une véritable émotion dans l'opinion publique en 1942, ça c'est incontestable. Les Français, même antisémites, hein, on le voit dans les rapports, même les gens qui n'aiment pas les Juifs, sont choqués qu'on arrête des femmes, des enfants, qu'on les sépare, qu'on les déporte. Donc là-dessus, il y a un consensus. Mais il y a quand même une xénophobie qui reste très puissamment enracinée, et en particulier à Paris, c'est essentiellement un phénomène parisien. Quand les Juifs reviennent, quand je dis reviennent, c'est pas ceux qui reviennent des camps, mais c'est ceux qui se sont cachés et qui reviennent, qui veulent reprendre possession de leur boutique, eh ben ça se passe mal. Ça se passe mal. Il y a vraiment un climat de xénophobie, d'antisémitisme très fort, qui s'ajoute en plus à une forme de sidération par rapport à l'immensité du génocide des Juifs. Poliakov, je le cite dans l'introduction, sur le procès Pétain, Léon Poliakov raconte dans ses mémoires qu'il y avait une sorte de résistance dans l'esprit des gens à croire à la réalité de ce qui s'était passé. Boris Cyrulnik témoigne souvent en disant, moi, quand j'étais enfant, et que je racontais, Boris Cyrulnik, donc vous savez, la famille était arrêtée à Bordeaux, je disais à mes camarades d'école ce qui était arrivé aux Juifs, ce qui était arrivé à mes parents. Les gens riaient, ne me croyaient pas, disaient que j'exagérais. Donc ça, c'est vraiment un élément dont les Juifs ont parfaitement conscience. Et c'est pour ça qu'il y a ce choix de... Il ne faut pas qu'on se mette en avant. Il vaut mieux que ce soit des non-juifs qui interviennent vis-à-vis du tribunal. Donc on essaye d'agir discrètement et on a conscience que qu'il y a une forme de silence. C'est pour ça que quand Jean-Paul Sartre sort en 1946, Réflexion sur la question juive, c'est un soulagement. Enfin, il y a quelqu'un qui parle des juifs. Alors aujourd'hui, on dit ah oui, Sartre, quand même. Avec son côté assimilationniste, il a nié la spécificité des Juifs. Mais il faut voir dans le contexte de l'époque, c'est une bouffée d'oxygène. Donc il y a vraiment ce côté, ce sentiment de solitude. Voilà, ça on le voit vraiment de solitude et de voilà le drame qu'on a vécu, il n'intéresse personne. Ça c'est vraiment la perception, le ressenti de l'époque. C'est pas une reconstruction a posteriori des historiens qui disent. Alors c'est évidemment toujours plus compliqué. On voit bien que le CDJC, le Centre de documentation juive contemporaine, Isaac Schneerson, a des soutiens de milieux progressistes, de gens voilà comme Justin Godard, de gens extraordinaires. Et il y a aussi ce lien avec le CNRS qui n'était pas connu. Il y a des aides. Hein, c'est pas absent. Ils ont accès, les archives nationales leur laissent accéder à des choses. Donc, il y a quand même, voilà, une avant-garde. François Mauriac. Moi, j'adore François Mauriac. Quand j'ai eu le prix François Mauriac, j'étais très heureux parce que François Mauriac joue un rôle d'avant-garde. Voilà, c'est l'un des rares dans le Figaro à titiller l'opinion, à dire voilà, n'oubliez pas ce que Vichy a fait. Et François Mauriac va préfacer le livre de Léon Poliakov. Le Bréviaire de la haine, qui est le premier livre qui sort sur le génocide des Juifs dans le monde, donc publié en 1951 par Kalman Levy dans la collection de Raymond Aron. Donc on voit voilà qu'il y a une sorte d'avant-garde intellectuelle non-juive qui soutient ce savoir-là, mais dans un silence global. Voilà.
Absolument. Et le CDJC... va essayer quand même de briser ce silence, ne va pas être spécialement entendu, ne va pas recevoir spécialement d'écho malgré des soutiens. Donc on passe rapidement effectivement sur le Centre de documentation juive contemporaine, le CDJC. Cette partie de votre ouvrage est particulièrement vraiment stimulante parce qu'en fait on retourne à la base, à la racine des choses. Qui sont concrètement les acteurs originaux, initiaux de ce CDJC? Comment se forment-ils? Comment ont-ils en fait la conscience de débuter en fait dès 43 à rassembler des preuves de ce qui se passe, des documents de ce qui se passe pour les Juifs en France?
Alors, ce qui est émouvant avec le CDJC, c'est que au tout début, donc 43, il n'y a pas forcément conscience de l'immensité du crime. On sait que des gens sont déportés, on sait que probablement ils vont à la mort, que c'est terrible, mais au début, en 43, à Grenoble, on se dit, la guerre va bientôt prendre fin, il faudra réparer, il faudra obtenir justice, il faudra obtenir réparation, restitution des biens qui ont été spoliés, et c'est dans cet esprit initial qu'on travaille. Donc au début, le CDJC, ben, ils vont collecter des données, notamment publiées au journal officiel, pour lister les administrateurs provisoires de biens juifs. C'est ça le départ. Il faut un début à tout. Hein. C'est ça le départ. Puis aussi des liens avec les associations clandestines. Donc il y a des informations sur les camps d'internement. Les premiers travaux qui sont préparés, c'est à partir de matériaux que dans la clandestinité, on a accès aux JO, les lois. Donc on va rassembler toutes les lois contre les juifs qui ont été faites. C'est vraiment à la Libération que Isaac Schneerson et Léon Poliakov, alors Léon Poliakov, c'est un personnage fascinant, hein, ce nom vous dit sans doute quelque chose, qui est devenu un grand historien, le grand historien de l'antisémitisme. Léon Poliakov, c'est un juriste, c'est un licencié en droit, résistant juif, qui va aider au sauvetage notamment des enfants en zone libre, en lien avec le Chambon sur Lignon. en particulier. Donc, un homme qui est en plus éminemment sympathique. Et c'est parce qu'il est éminemment sympathique que Schneerson le choisit comme celui qui va aller taper à la porte des gens. Donc, il arrive, il a un peu l'accent russe, il est sympa. Et donc, c'est comme ça qu'il va se faire ouvrir des portes. Mais au départ, quand il s'installe à Paris en 44, il tâtonne. Et puis, il y a la conscience, ils prennent conscience de ce qui s'est passé. Et là, ils sentent qu'il y a quelque chose à faire pour documenter ce qu'ils appellent la grande catastrophe. Voilà, donc, on n'est plus sur la France. Voilà. Et puis, la persécution des Juifs, enfin, c'est de manière globale documenter la grande catastrophe. Donc, c'est arrivé aux Juifs sur l'ensemble de l'Europe. C'est ça l'ambition, une ambition très élevée. Et à partir d'archives qu'ils ont, qui sont des archives de la Gestapo, qui sont les archives du commissaire aux questions juives, et comme, en plus, il va y avoir une accusation française à Nuremberg, au procès de Nuremberg, cette accusation française à Nuremberg, elle est portée par des gens de très haut niveau, François de Menton, Edgar Faure, mais l'accusation française à Nuremberg, elle est un peu démunie, elle n'a pas beaucoup d'archives. Et donc, le CDJC prend contact grâce à Poliakov, parce que Poliakov, son beau-frère, qui s'appelle Rabinovitch, est un grand avocat, grand juriste, grand résistant. Il connaît Edgar Faure. Donc, vous voyez, de fil en aiguille, on se retrouve à Nuremberg. Et là, ils ont accès à plein d'archives. Et c'est comme ça que le CDJC devient le principal centre en Europe d'études sur les Juifs. Avec ce parti pris, ce postulat, qui est d'ailleurs discuté par d'autres acteurs, les représentants. Il y a plein d'instituts historiques juifs qui se créent au sortir de la guerre. Ils sont pas tous d'accord avec les Français, parce que pour les Français, quand je dis les Français, ils deviennent tous Français, ils finissent par être naturalisés. Bilic, Poliakov sont des Juifs russes. Ils sont quasiment tous Juifs russes. Hein. C'est vraiment leur origine. Il y a vraiment là un réseau Schneerson. Eux, vraiment, leur parti pris, c'est de dire il faut partir des archives. Ils sont très positivistes. Les archives des bourreaux. Et vous avez des gens qui sont pas d'accord, qui disent mais non, il faut travailler sur les témoins sur les victimes, en yiddish, les bourreaux ils peuvent mentir dans leurs archives. Mais voilà le parti pris français, les archives des bourreaux. Et donc c'est ce qui leur permet de publier des travaux qui sont extraordinaires. Hein. Quand je vous parle des publications du CDJC, imaginez que entre 1945 et 1950, vous avez une vingtaine de livres qui sortent sur tous les sujets. Les camps d'internement, la propagande, le ghetto de Varsovie, la résistance juive, la propagande de presse. Il y a vraiment, vraiment le droit antisémite. C'est vraiment des publications de très haut niveau. Et puis Poliakov, qui en 51, alors ça sort pas dans les publications du CDJC, ça sort à Kalmanovitch, parce que Poliakov a déjà l'idée de... lui voit bien que le CDJC fonctionne un peu en vase clos, c'est des publications que personne ne lit. Lui se dit, il faut qu'on aille au-delà. Et Poliakov joue un rôle très important, parce que c'est lui qui va prendre contact avec le CNRS, c'est lui qui va permettre à Joseph Bilic... Alors, Joseph Bilic, c'est l'un des héros du premier chapitre, parce que c'est un personnage très attachant. Vous savez, on connaît tous des gens comme ça. Des gens hyper brillants, mais un peu démuni devant l'existence. Il est incapable, voilà, c'est quelqu'un, il faut toujours l'aider, il ne sait pas se défendre, et il est un peu sadisé par Schneerson. Voilà, Schneerson, c'est un entrepreneur, il a du mal à joindre les deux bouts pour financer le CDJC, donc quand il peut sous-payer les gens, il se prie pas. Et donc, Billy, qui est un homme qui était prisonnier de guerre, dont la mère a été déportée, qui s'est tourné vers le CDJC, parce que lui voulait avoir des informations sur sa mère, donc bon, il est là, comme plein de Juifs au sortir de la guerre, il n'a pas de boulot, donc il est brillantissime, il est mathématicien, il est docteur en philosophie, voilà, c'est le pur intellectuel. Donc il va être embauché, et Poliakov identifie une force intellectuelle, et Poliakov va le défendre. Mais Bilig, Schneerson, lui donne un tout petit salaire d'archiviste, un demi-poste. Et donc, c'est grâce à Poliakov que Bilic va avoir un poste au CNRS, voilà, en 1950. Donc, on voit que voilà, ils sont quand même un peu connectés. Et Bilic va aller à Nuremberg, et il va y rester 2 ans. Et il va avoir accès à plein d'archives, et il va se former au métier d'historien. Donc, on a là quelqu'un, et là, j'ai vu toute la correspondance entre Bilic et Poliakov. On voit comment on devient historien. Voilà, il y a une correspondance passionnante. Et à partir de ses archives, il va faire ce... Quand je dis que Poliakov a fait le premier livre sur le génocide des Juifs, En fait, c'est pas vrai. Le premier livre, c'est Billy qui fait un tout petit livre de 100 pages en 1950, où c'est un livre incroyable parce que c'est un livre de pur savant où il essaye de comprendre comment le génocide des Juifs a été pensé par les nazis, planifié et mis en œuvre. C'est un livre très érudit, très savant, que personne n'a lu. Alors Poliakov, il essaye d'en faire un peu la publicité. Il y a un article dans Le Monde, il y a quand même, voilà, mais personne n'a lu ce livre, ou pratiquement personne. Et c'est Poliakov qui va, entre guillemets, remporter la mise avec Le Bréviaire de la Haine, qui va être un livre qui va faire parler de lui en 1951. Donc voilà un peu ces chercheurs. Et le premier chapitre, c'est vraiment sur, en fait, sur ce duo, essentiellement Bilic, Poliakov, mais aussi connecté avec Henri Michel. Henri Michel joue un rôle très important. Henri Michel, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom. Henri Michel, c'est un résistant qui va être la cheville ouvrière du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et eux, ils ont beaucoup plus de moyens que le CDJC. C'est officiel, c'est l'éducation nationale, c'est les services du gouvernement, le Premier ministre. Et eux, l'essentiel de ce qui les intéresse, eux, le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est la résistance. Voilà. Et ils travaillent de manière très différente que le CDJC, parce que eux, ils veulent interroger le maximum de résistants. Donc on voit qu'ils n'ont pas du tout la même méthode, mais quand même, ils vont être en lien, ils vont travailler ensemble. Et dans sa revue, la fameuse revue d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, Henri Michel veut faire des numéros thématiques, il va demander à Poliakov, et ils vont faire un numéro thématique sur les Juifs. Donc on voit qu'il y a quand même des liens avec le monde académique, parce que Henri Michel est un pur universitaire français. Voilà, c'est directeur de recherche au CNRS, normalien. Enfin, vous voyez, il coche toutes les cases. Donc, on voit qu'ils sont pas complètement isolés. Ça, c'est important à le dire parce que, voilà, jusqu'à présent, on disait leur savoir était purement, c'était un peu le ghetto. Non, c'est pas un pur ghetto. Ils sont quand même un peu connectés.
Oui, c'est particulièrement passionnant parce que on voit aussi toutes les tensions qui peuvent exister dans le CDJC avec un président qui commence à être agacé quand il n'a pas suffisamment de résultats, qui est pressé effectivement qu'on obtienne des choses, qui lui est occupé à assurer la survie économique de ce centre. Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est que sur ces acteurs, en fait, du début, ils partagent tous quand même globalement pour point commun d'être des exilés. Déjà, ils ont quitté pour la plupart la Russie. Et je me demandais tout simplement dans quelle mesure, en fait, cette expérience de l'exil a peut-être joué dans leur prise de conscience de l'importance de rassembler des documents sur la persécution, sur les documents des bourreaux. Est-ce que cet exil, cette expérience de l'exil a eu, vous pensez, ou non ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'en tout cas, ça fait de... Ça, effectivement, ça leur donne un profil particulier. Ce sont des gens qui ont traversé plusieurs pays, qui parlent plusieurs langues. C'est des exilés, là on parle d'exilés de haute volée. Hein. C'est tous des intellectuels de haut niveau. Mais ce qui est déterminant, fondamentalement, c'est quand même, d'une part, la conscience qu'ils ont de ce crime, voilà, le génocide des Juifs, qui est quelque chose qui est absolument énorme. Et pour comprendre et cerner l'immensité de ce crime, le choix qu'ils ont fait de devenir des purs chercheurs. Voilà, ça, c'est lié à un miracle archivistique, parce qu'ils sont fous de joie qu'on voit les lettres qui s'échangent, mais ils découvrent des archives incroyables. Et donc, c'est une forme d'occasion incroyable qui leur a été donnée, et c'est ça qui est déterminant. C'est ce miracle archivistique. Ils ont les archives de la Gestapo, ils ont les archives du commissariat de questions juives. Ils arrivent à Nuremberg. Là, ils sont super bien accueillis. Les Américains sont sympas avec eux. Ils se trimballent dans le tribunal. Billy, il a sa petite division, son petit bureau. On lui laisse accéder à toutes les archives. Il fait plein de copies. Donc, c'est exaltant. Et c'est cette forme d'exaltation qui s'est traduite dans leur travail. Voilà.
Absolument. Ce qui est très intéressant, et vous en avez parlé brièvement, c'est que les acteurs du CDJC font le pari de dire on va écrire cette histoire à partir exclusivement des archives des bourreaux, entre guillemets. Est-ce que c'est un choix vraiment volontaire, ou est-ce que c'est lié au fait que la parole des victimes, en fait, est usurpée aussi par les anciens criminels, les complices, etc.
Oui, vous regardez les témoignages qui paraissent. À la fin des années 40, la déportation juive est quasiment pas représentée. Donc on sait bien qu'on nous entend pas et que le meilleur moyen de se faire entendre, c'est ce que dit à un moment donné Schneerson, il dit le meilleur moyen d'être cru, c'est la preuve irréfutable. La preuve irréfutable, c'est ce qui fait qu'on va... Voilà. Et évidemment, ce parti pris, il est aussi lié à cette extraordinaire opportunité qu'ils ont eue. Donc vous voyez, ça s'entremêle. Voilà, donc il y a une forme d'effet d'aubaine également. Mais c'est un excellent pari parce que c'est ça qui fait que du coup, ils sont respectés, ils sont très respectés. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, quand on voit le comité de patronage, quand on voit comment Henri Michel, qui est le grand pape hein, de l'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, qui s'intéresse à toute autre chose, malgré tout, ils se disent ce qu'ils font, c'est du bon boulot. Donc ce parti pris qu'ils ont eu de la science, du savoir scientifique, pour voilà, parce que c'est des militants, ils ont fait ce choix-là, c'est le choix payant qui a permis de donner Klarsfeld. Klarsfeld est vraiment l'aboutissement de ce pari initial.
Vous, donc évidemment, dans ce CDJC, donc revient beaucoup Poliakov avec son Bréviaire de la haine, qui est vraiment un ouvrage absolument essentiel en fait dans la connaissance historique, non pas seulement du régime de Vichy, hein, de la catastrophe, effectivement, parce que on peut notamment citer hein, dans cet ouvrage qu'il fait quand même un chapitre sur les Einsatzgruppen, qui connaît aussi hein, le terrain de l'Est de l'Union soviétique, de ce qui s'est passé concrètement là-bas. Donc, vous poursuivez ensuite votre livre donc, avec cette année 51, qui donc correspond en même temps à la sortie du bréviaire de Poliakov, mais qui correspond aussi au décès donc, du maréchal Pétain. Et en quoi ce moment, cette année 51, et un tournant, pas un temps matriciel, un tournant dans la connaissance historique.
Ben oui, 1851, c'est hop, on bascule deuxième chapitre. Il y avait vraiment là un moment parce que j'essaye de suivre un récit, et c'est vrai que ben, je finis sur Poliakov. Contrairement à parce que Poliakov a été après exploité, c'est-à-dire qu'on l'a, on a extrait des extraits du Bréviaire de la haine pour faire dire à Poliakov le contraire de ce qu'il disait. Donc je finis le chapitre en disant, voilà, il juge Pétain très sévèrement, et hop, on arrive, 51, c'est l'année de la mort de Pétain. Et c'est effectivement, c'est un moment, 51, charnière, parce que c'est le moment où on sort de l'épuration, où on a la mort de Pétain, c'est pour la première fois, on a des gens qui, dans les rues de Paris, crient à mort aux Juifs. Il y a des gens qui se sont réunis auprès de l'Arc de Triomphe, les pétainistes qui vont se bagarrer avec les résistants. Il y a des émeutes, enfin, ce n'est pas des grosses émeutes, mais c'est un moment vraiment de. On sent que ben, les anciens collabos, ils ont repris du poil de la bête. Alors, j'explique, je fais un petit flashback, je dis que ça vraiment, le basculement a commencé en 48. Depuis 1948, il y a vraiment un basculement de l'opinion. Le maréchal Pétain est sur l'île Dieu, on s'émeut, etc. Donc, là, la situation est prête pour que s'impose cette vision pacificatrice de l'histoire et qui est mensongère en vérité. Et c'est celle qu'on trouve dans Robert Aron, 1954, Histoire de Vichy, où pour le grand public cultivé, on nous vend maintenant cette idée mensongère qui est celle du procès Pétain, hein, parce que le glaive et le bouclier, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, c'est au début du procès Pétain, le maréchal Pétain qui dit j'ai été le bouclier pendant que le général de Gaulle était le glaive. Vous voyez, cette justification du procès Pétain devient la grille de lecture de Robert Aron, qui est un journaliste dont je montre les amitiés avec Vichy, même s'il est juif, pendant la guerre. Et ça correspond à ce qu'on a envie à ce moment-là de. Voilà, les gens veulent se réconcilier, veulent se sortir de l'épuration. C'est le moment des lois d'amnistie. Et donc, c'est ça qui s'impose avec cette réserve près qu'il faut évidemment dire, c'est que à l'époque, on parle quasiment pas des juifs. C'est-à-dire que dans Robert Aron, sur 600 pages, il y a deux pages sur la persécution des juifs hein, et elles sont pleines d'erreurs. C'est vraiment le sujet n'intéresse pas, mais il sert à illustrer cette thèse mi-figue, mi-raisin. Ah, c'est pas bien d'avoir déporté les juifs. C'est un peu immoral, mais grâce à Laval, on a quand même sauvé le plus grand nombre. Vous voyez, c'est cette idée reçue, voilà. Et ça, c'est ce qu'on lit un peu partout. Et face à ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit que les Billig, les Henri Michel, ceux qui sont les premiers chercheurs savants, qui savent la vérité de l'histoire, qui travaillent pas comme Robert Aron, qui a pas vu les archives, eux, ils ont vu les archives et ils disent non, c'est pas vrai. Et on voit que Billy contredit Robert Aron et ça se continue. On n'a pas commencé avec Zemmour pour lutter contre les falsifications d'histoire. On voit que Joseph Billig notamment va être très offensif contre Robert Aron, notamment en 61, parce qu'en 61, il y a le procès à Eichmann. Et là, on comprend que maintenant, on commence à parler des Juifs. Avant, c'était pas un sujet. C'était comme ça. Procès à Eichmann, 61, on commence à parler des Juifs. Et là, Robert Aron, qui a des radars, fait un premier article, vraiment, là, prend un bras-le-corps et va faire un article qui va avoir une forte résonance dans le Monde et Vie, qui était un journal catholique très élu à l'époque. C'est pas le Monde et la Vie d'aujourd'hui, c'est très élu à l'époque. Et il défend la thèse de Pétain qui a sauvé les Juifs français. Voilà. Et là, Billig répond, essaye de. Donc on voit que là, on rentre dans une nouvelle phase. On rentre dans une nouvelle phase de... Et ça, c'était complètement inconnu. Ces polémiques de l'époque, je les ai trouvées grâce aux archives. Vous voyez si je m'étais contenté de faire un essai d'historiographie en lisant juste des livres, je serais passé à côté de plein de choses.
Absolument. On ne peut que être d'accord avec cette dernière phrase. Vous parlez quand même de cette loi très importante qui décrète en 53 l'amnistie générale. Comment cette loi elle est réceptionnée par l'opinion publique?
L'amnistie, c'est vraiment voilà, on n'en parle plus. Non seulement on n'en parle plus, mais en plus, on n'a même plus le droit de mentionner les crimes. Ça fait partie de la loi. On ne peut pas mentionner ce pourquoi des gens qui ont été condamnés et ensuite amnistiés, ce pourquoi ils ont été condamnés. Donc c'est quand même dingue. C'est-à-dire que en 1967, quand il y a ce autre basculement du livre... quand Claude Lévy et Paul Tillard font un livre sur le RAF du Veldiv, ils ne peuvent pas évoquer le rôle de Bousquet, parce que Bousquet est amnistié. S'ils le font, ils risquent des poursuites. Donc on est quand même, vous voyez, dans ce silence qui se... J'avais demandé à El Kabbach, Jean-Pierre El Kabbach, que vous connaissez, quand j'avais fait mon livre sur le RAF du Veldiv, il m'avait interrogé... sur Europe 1, et avant, on avait parlé, et j'avais interrogé sur une fameuse archive que je cite dans le livre, lorsqu'il interroge Claude Lévy sur France Inter en 1967, et il essaye de lui faire dire des choses. Il dit, il y a des responsables, pourquoi on peut pas... Et personne n'ose citer Bousquet. Et je demande à El Kabbach, vous pensiez à Bousquet? Il dit, mais bien évidemment, c'était un scandale absolu. Bousquet était protégé, on ne pouvait pas en parler. Et donc... on voit que, vous voyez que la levée des tabous sur Vichy, elle se fait dans un contexte où c'est encore difficile. Et il y a des procès. Alors, évidemment, ces procès, en vérité, Claude Lévy, à mon avis, n'aurait pas risqué grand-chose, même si Bousquet avait été très bien défendu, s'il avait dit noir sur blanc, parce que c'était déjà mentionné dans les livres du CDJC. Vous lisez les livres du CDJC, notamment un livre incroyable sur la persécution des Juifs, à l'ouest de l'Europe. Ils ont publié un recueil en 1948 sur la persécution. Ils ont fait la même chose sur l'Est, d'où toutes les informations dont Apoliakov. Donc effectivement, on a énormément d'informations sur la Shoah, on n'appelle pas encore la Shoah à l'ouest de l'Europe, et la Shoah à l'est de l'Europe. Parce que le CDJC a publié des recueils incroyables de documents. Et sur Bousquet, tout est déjà là. On a tout. C'est même avant le procès Bousquet. Bousquet est jugé en 1949, condamné à l'indignité nationale, relevé pour tout ce qui est là. Et d'ailleurs, je raconte dans mon livre que on a envoyé ce livre, La persécution des Juifs à l'Ouest, au juge qui instruit le procès Bousquet. Il ne regarde même pas, il ne s'en rend même pas compte. Donc voilà, Bousquet a bénéficié d'un. Et y a donc déjà des procès, des anciens collabos font des procès. Mais à chaque fois, ils perdent. Parce que quand même, les juges disent le droit de l'histoire est plus important et on pourrait plus faire d'histoire. Mais on voit quand même qu'encore à la fin des années 60, on n'ose pas, et un militant de la mémoire, Claude Lévy, qui fait ce livre sur la rafle du Veldiv, n'ose pas mentionner le rôle de Bousquet dans la rafle du Veldiv. Ça nous paraît aujourd'hui ahurissant, puisque c'est Bousquet qui a organisé la rafle du Veldiv. C'est pas évoqué dans ce livre de 1967. Et alors, il fait de l'ironie à la fin, en disant ben Bousquet a eu une médaille pour avoir sauvé des gens, parce qu'effectivement, il avait, en tant que préfet, Donc on n'ose pas. Et El-Kabbach essaie de pousser dans ses retranchements et il dit, oui, ces gens sont très protégés, vont très bien, mais vous comprenez, si j'évoque, si je parle d'eux, je risque un procès. Voilà. Donc je peux pas le faire. Voilà encore le contexte de la fin des 60.
Comment on passe de ce contexte quand même extrêmement, on va dire, tendu, où le silence continue en fait de peser sur des réalités qui sont en fait connues, documentées? Comment on passe de ça, en contexte, à une forme de consensus?
Alors, consensus, il commence... Alors voilà, la chronologie que vous connaissez, Le chagrin et la pitié, Paxton, c'est le tournant. Je la réaménage. Je la suis. Hein, moi, je suis en accord avec les thèses d'Anna Dvorka, d'Henri Rousseau, qui ont été contestées par d'autres historiens. En fait, ils ont... Vraiment, j'ai vu énormément d'archives, j'ai lu énormément. Ils ont raison. En gros, ça tient. Le schéma tient. Mais je réagence un petit peu en faisant vraiment commencer en 67. 67, c'est le tournant. C'est le tournant parce que ce livre de Lévy et Tillard, même si, je vous l'ai dit, ils n'osent pas tout dire, ils sont quand même... Voilà, et c'est quand même un livre qui est un tournant à plusieurs égards. D'abord, c'est la première fois qu'on a un livre qui est fondé sur la parole des témoins. Et jusqu'à présent, on s'est dit, c'était des JC, les témoins, ils n'existent pas, c'est les archives. Claude Lévy, qui est un vrai militant de la mémoire, qui se dit, il y a une falsification de l'histoire. J'utilise ce terme parce que c'est lui qui l'utilise. Vous avez vu qu'il m'a influencé, puisque j'ai intitulé un livre. Lui sentait qu'on disait qu'il y avait ce mensonge qui plane. Lui, il a ses enfants qui vont à l'école. Il voit bien qu'on ment dans les manuels scolaires, qu'on ment dans les livres grand public, qu'on ment sur les plaques commémoratives. Ça, lui, est insupportable. Et la rafle du Veldiv, c'est l'objet. D'ailleurs, on l'appelle pas encore rafle du Veldiv. Elle n'a même pas de nom, cette grande rafle. Or, elle est très importante. Et donc, il se dit, je vais faire un livre pour le grand public, qui va émouvoir les gens. Donc, il va avoir des témoins, des rescapés. Il s'associe, parce que là aussi, on est dans « je suis juif, si je suis tout seul pour toucher le grand public, je ne vais pas y arriver ». Donc, il s'associe avec un ami proche, un ami intime qui est non-juif, Paul Tillard, qui est en plus grand résistant, grand écrivain, communiste. Et en fait, Tillard, il ne va pas faire grand-chose dans ce livre. Mais il lui donne son label. Voilà. Et puis, c'est un romancier, il a une belle plume, donc il aide à écrire le livre. Il meurt d'ailleurs avant la fin du livre, il meurt en 66, des suites de sa déportation à Ravensbrück. Donc vous voyez que on doit un peu ruser, vous voyez, Claude Lévy, et il utilise cet objet. Donc c'est la première fois qu'on a un livre à partir de témoins, et grâce au réseau de Paul Tillard, il arrive à publier chez Robert Laffont dans une collection grand public. Et là, c'est le choc. Le livre fait un tabac, un succès de librairie, et pour la première fois, on a une réception grand public avec des gens. Vous voyez, ces intermédiaires culturels que vous connaissez, hein, Jean-François Revel, Jean-Paul Sartre, le même Jean-Paul Sartre Jacques Duquesne, grand journaliste catholique. Tous ces gens-là disent ah, voilà ce qu'on a fait à Vichy. Voilà, on a honte. Enfin, vous voyez, c'est pour la première fois, on rentre dans le régime mémoriel d'aujourd'hui. On se bat à la coulpe en quelque sorte. On se dit voilà ce qu'on a fait, nous Français, c'est pas beau. Hein. Et donc, c'est vraiment un tournant. C'est vraiment un tournant mémoriel qu'on a un peu oublié parce que vous avez eu 68 et 68 a un peu rebattu toutes les cartes. Mais c'est fondamental parce que si vous avez vu Le chagrin et la pitié, qui est le personnage qui arrive un peu comme un cheveu dans la soupe, en fait, dans Le chagrin et la pitié, parce que Le chagrin et la pitié, ça se passe à Clermont-Ferrand. Tous les gens sont de Clermont-Ferrand, sont passés par Clermont-Ferrand, ou ont été jugés à Clermont-Ferrand comme Pierre Mendès France. Donc tout le monde a un lien avec Clermont-Ferrand, sauf Claude Lévy. Le Claude Lévy de la rafle du Veldiv, c'est lui, vous savez, qui dans son bureau parle. C'est une séquence pendant 15 minutes, et qui est vraiment la révélation pour le grand public, mais vraiment encore plus que le livre, sur le rôle de Vichy, avec un Claude Lévy qui dit voilà, on a menti, les manuels scolaires mentent, la vérité, elle n'est pas belle à voir, mais la France de Vichy a... Et vous avez face à lui le fameux René de Chambrun. Vous voyez, il y a une sorte de montage, je ne sais pas si vous vous rappelez cette scène extraordinaire. Donc René de Chambrun, qui est fou de rage, j'ai eu accès à ses archives, il est fou de rage de comment il a été piégé par Marcel Ophuls. Et à partir de ce moment-là, eh ben, la question du rôle de Vichy dans la déportation des Juifs, ça devient quelque chose qui entraîne des débats. 71, je découvre que c'est la première fois qu'on a un débat public sur le rôle de Laval, les Juifs. Il y a un débat public dans les colonnes du Monde. Voilà. Et en quelque sorte, quand Paxton arrive en 73, bah, tout est prêt. Tout est prêt. À la fois dans le savoir, qui depuis, je vous l'ai dit, Bilic, Poliakov, Veller, c'est des gens qui publient depuis des années, qui savent le rôle de Vichy dans la collaboration, qui l'ont documenté précisément. Donc, Paxton, il va, et c'est ça la grande nouveauté de Paxton, il va reprendre des thèses qui sont déjà dans l'historiographie, qui sont déjà là, Lévy, Henri Michel, mais ce qu'il va faire de nouveau, c'est qu'il va juger Vichy. Et il va juger Vichy à travers, c'est la conclusion, si vous lisez La France de Vichy, il n'y a pas beaucoup de pages sur les Juifs. C'est pas un sujet, c'est, il est un peu là-dessus dans l'ancienne historiographie. Mais la nouveauté, c'est qu'en conclusion, il juge Vichy à travers le rôle de Vichy dans la persécution des Juifs. Et c'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui est révolutionnaire. Vichy est condamnable, Vichy est criminel, parce que Vichy a joué un rôle néfaste dans la déportation des Juifs. Donc on voit qu'il arrive à ce moment-là où là, un consensus s'établit. Et même des gens comme René Raymond, vous savez, c'est comme en politique, quand le ventre mou, voilà, c'est bascule, ben on voit des gens comme Henri Amouroux, comme Jean-Raymond Tournoux, Jean Dutour, fondamental Jean Dutour. Jean Dutour, il est de droite, c'est un ancien résistant, mais il est de droite. Et que Jean Dutour, en 1974, dans François, c'est lu par un million de gens, commente un documentaire qui a été écrit par Georges Etelger, Georges Etelger qui a coécrit l'histoire de Vichy avec Robert Aron. Donc, elle est quand même dans cette vision a priori pacifiante. René Raymond, lui aussi, ben, eux disent, ben, c'est criminel ce qu'a fait Vichy. Et Jean Dutour fait un article incroyable en disant, Vichy s'est déshonoré. La livraison des Juifs de zone libre, c'est absolument indigne. Alors, il reçoit des lettres d'insultes, de pétainistes, mais on voit là qu'un consensus, ça devient une évidence qui se répand. Et le terme, pour moi, le consensus, c'est, on est 81, c'est le sommet du consensus. Voilà. Il n'y a plus personne, sauf des pétainistes, qui vont encore avancer ces arguments du moindre mal. Ils paraissent totalement arrangés au magasin des antiquités, des choses complètement désuètes. Et donc, vous avez une sorte de convergence. 81, c'est Vichy et les Juifs de Paxton, Marius. C'est Henri Amouroux, Les Passions et les Haines, qui est un livre très important, beaucoup plus lu que Vichy et les Juifs. Parce que Vichy et les Juifs, j'ai découvert que les ventes, c'est 8700. C'est pas mal, hein, mais enfin, Henri Amouroux, c'est 250 000. Donc, et dans Les Passions et les Haines, ben vous avez l'impression de lire du Pilig, de lire du Paxton. Alors que le Amouroux de 1161 qui fait la grande ce premier livre, le fameux livre jaune, c'est pas tout à fait la même musique. Voilà, et donc il y a ce basculement là. Il y a un consensus, et qu'est-ce qui fait qu'on va pas que le consensus va disparaître et qu'on va avoir les polémiques des années 80-90? C'est que ça suffit pas à un bonhomme qui est en couverture de ce livre. Klarsfeld, lui, veut en plus des sanctions judiciaires, et là, il va plus. Le grand consensus entre les historiens, les militants de la mémoire, les journalistes, grand public, là, va se disparaître.
Effectivement, en fait, on voit que dans ces années 70, quand même, on arrive à 70-80, on commence à atteindre une forme de consensus, avec quand même des acteurs qui commencent un petit peu aussi à émerger, qui représentent aussi différentes victimes, les résistants, les Juifs. On voit quand même qu'il y a des conflits de mémoire qui sont plus ou moins...
Qui commencent effectivement à la fin des 70 à se cristalliser.
Qui commencent à se cristalliser. Et puis dans tout ça, donc dans cette phase où on se dit, bon, ça y est, on a attendu une forme de consensus, malgré voilà, des opinions divergentes, il y a Klarsfeld qui arrive, effectivement. Et vous faites une place à Klarsfeld, vous faites une belle part quand même du livre à Klarsfeld, en témoigne donc la dernière partie, plus... Le choix quand même de cette première photo qui sert de couverture. Donc justement, Klarsfeld, qu'est-ce qui va faire voler en éclat?
Alors, ce qui fait voler en éclat, d'abord, c'est ce choix initial du CDJC, de Georges Vélers en particulier, de Bilig, même si Billig va soutenir Klarsfeld, mais Wehlers ne le soutiendra pas trop, va être un peu agacé par cet activisme. La carte qu'ils avaient jouée, c'était celle de la science pure. Voilà, c'est par ça qu'on arrive à... Et Klarsfeld, lui, il utilise la science à des fins militantes. Et là, et il veut un procès. Il veut un procès. Il annonce dès la fin des années 70 qu'il veut le procès de Vichy, qui aurait soi-disant pas eu lieu. Donc déjà là-dessus, les historiens se disent, mais attendez, Vichy, il y a quand même eu le procès de Vichy, les Juifs, on en a quand même parlé, c'est pas si vrai que ça. Donc déjà, il agace un peu, il crispe, mais surtout, il touche à des gens qui sont des gens importants et vis-à-vis desquels on n'avait pas trop osé mettre l'accent. C'est-à-dire des gens qui sont des représentants de la haute fonction publique, des anciens représentants de la haute fonction publique, pardon. Jean Le Guay, qui est encore vivant, qui était le bras droit de René Bousquet. René Bousquet lui-même, qui est vivant, mais René Bousquet, lui, il a eu un procès, donc c'est compliqué. Puis il va y avoir Papon, bien évidemment. Mais Papon, pour Klarsfeld, c'est un petit poisson. Donc lui, il a Le Guay et Bousquet en ligne de mire, et il va écrire un livre en vue d'obtenir ce procès. C'est Vichy Auschwitz, 1983. Et Vichy Auschwitz, qui en vérité est un très grand livre d'histoire, parce que il va utiliser, il est l'héritier du meilleur de l'école du CDJC. Alors il oublie un peu qu'il a des devanciers. Hein. Ça, c'est Klarsfeld. Hein. C'est-à-dire que il a tout fait lui. Et donc, ce qui fait qu'il va vexer un peu les vieux de la vieille. Wehlers va être un peu mortifié de voir qu'il n'est même pas évoqué. C'est tout commence à Klarsfeld. Il n'y avait rien avant lui, il n'y a rien après lui. Quoi. Donc, en fait, il est le pur héritier de ça. Et il construit Vichy Auschwitz en vue d'obtenir un procès Bousquet. Voilà. Et ce qu'il observe, c'est que ça suscite un peu... Voilà, ça suscite des crispations. Et il y a peu de gens qui comprennent en fait son objectif. Et donc, il va être de plus en plus militant. Il va être de plus en plus... Et vous avez un président de la République, François Mitterrand, qui en vérité défend Bousquet. Ça, c'est vraiment... Alors, évidemment, vous allez me dire, on le savait. On le savait. Mais j'ai trouvé des trucs qu'on ne savait pas et qui montrent que ça a suscité dans l'entourage de Mitterrand de la gêne. Quand vous avez, ça c'est l'un des scoops du livre, Pierre Jox, qui est au moment de Carpentras 90, où la France entière est émue par ce qui s'est passé et défile, et il y a une sorte d'unanimité de la société française entière pour dénoncer l'antisémitisme, Pierre Jox dit oui, c'est très bien d'aller défiler, mais... Et Bousquet, on peut plus continuer à bloquer ce donc il y a ce blocage délibéré dont je vais trouver d'autres preuves qui fait que Klarsfeld va devenir de plus en plus provocateur. L'affaire du fichier juif, et il va y avoir comme ça. Et on est vraiment au sommet du syndrome de Vichy au début des années 90. Et les historiens sont très mal à l'aise. Et en fait, cette espèce de coupure entre les historiens professionnels qui sont très sourcilleux, très soucieux de leur prestige. Et aujourd'hui, on voit bien que ça tient pas. Et Henri Rousseau, l'auteur du syndrome de Vichy, m'a écrit une lettre incroyable que j'ai reçue il y a deux jours. Et il me dit, en fait, pour notre génération, il y avait vraiment une coupure. Klarsfeld, c'était pas un vrai historien. On le considérait pas comme un vrai historien. Et aujourd'hui, on voit bien que ça tient pas. Voilà, que cette dichotomie histoire-mémoire, ça tient pas, mais voilà. Donc, ça a été très violent en fait. Et les polémiques mémoire des années 90, en fait, je les relis tout à travers cette ambition de Klarsfeld d'obtenir enfin un procès. L'affaire du fichier juif, même l'affaire Aubrac, a un lien avec tout ça. Et on arrive à ce moment du procès Papon qui va être le moment qui est à la fois le triomphe de Klarsfeld, parce que c'est sa vision de l'histoire qui l'emporte. Et en même temps, sur le moment, à quel prix ? C'est-à-dire qu'il est fâché avec toutes les autres parties civiles. Les historiens académiques sont gênés. Les politiques sont gênés. Mais c'est lui qui avait raison, avec le recul. Voilà, c'était la bonne sanction, parce qu'effectivement, ça correspondait aux responsables. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le moment Klarsfeld, parce qu'on voit que c'est à la fois le couronnement du savoir des victimes, l'évolution ultime de ce savoir qui est reconnu, pris en charge par l'ensemble de la nation. Et maintenant, on a le recul historique pour apprécier, parce que j'ai eu aussi accès à des archives inédites sur la manière dont s'est construit le verdict. Et on voit très bien que voilà, on a de nouveaux éléments sur Papon, et c'était par rapport à l'épuration, par rapport à d'autres sanctions ailleurs. Il y a eu d'autres procès ailleurs en Europe. C'était le bon verdict, c'était la solution raisonnable. Voilà.
Absolument, et effectivement, Klarsfeld est une figure extrêmement clivante, et c'est aussi ce positionnement en tant que découvreur des faits qui étaient déjà connus et travaillés par les historiens aussi qui a quand même un petit peu gêné. Depuis donc la fin, si on peut la qualifier comme ça, la fin de l'ère Klarsfeld, on ne sait pas trop si elle a terminé cette ère. Comment aujourd'hui on peut voir la suite pour l'histoire de cette période du régime de Vichy? Est-ce que ce temple historique de la connaissance, de la vérité historique est encore assuré, ou au contraire, quel conseil en fait pouvez-vous donner aujourd'hui pour qu'on conserve en fait ces acquis historiographiques qu'ont permis tous ces individus que nous avons vus donc à travers ce livre?
Bah moi, j'ai pas un conseil, mais j'ai en tout cas une sorte de mantra. C'est pour moi la meilleure arme, c'est de connaître l'histoire. Voilà. Quand on connaît l'histoire de l'histoire, qu'on sait comment elle s'est écrite, comment on sait quels obstacles elle a dû surmonter pour s'imposer, la vérité de l'histoire, ben c'est parfois un long processus, et il faut avoir conscience de ces difficultés d'écriture pour préserver cette fragilité, parce que c'est fragile, la vérité du savoir. C'est remis en cause. On a vu avec Zemmour, ça paraissait venu de nulle part. On voit qu'en fait, quand on a lu, on voit d'où ça vient. C'est une vieille tendance de l'extrême droite française d'essayer de se réconcilier avec la droite classique en réécrivant l'histoire. C'est le bouclier. Voilà, Zemmour n'est pas le premier. Et réécrire l'histoire à des fins politiques, c'est quelque chose qui est hélas pas terminé. Et on voit comment commence l'année 2025 avec Trump, avec cette espèce de triomphe du nationalisme réactionnaire, c'est comme ça que je le qualifierais, plus qu'extrême droite. Ben, on se rend compte que oui, que le combat il est pas terminé.
Merci beaucoup, Laurent Joly. Il nous reste à vous remercier vivement pour cette présentation.